En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
Nous sommes le 5 avril 2023 et je reçois Laurence Vincent, présidente de Prével. Promoteur immobilière bien connu à Montréal, Laurence a travaillé 15 ans au sein de l'entreprise familiale avant de prendre la relève de son père. 5 ans plus tard, à 41 ans, elle s'arrête à Brave pour nous parler de son parcours rempli de questionnements ainsi que pour partager ses convictions qui ne l'ont jamais quittée. Bonsoir, Laurence.
Bonsoir.
Je suis vraiment contente de t'accueillir à Brave. Comment te sens-tu?
Pas super à l'aise parce que non, mais j'ai l'habitude de parler d'immobilier, d'idées, de mes projets. Là, j'ai l'impression que ça sera peut-être pas ça le sujet principal, puis ça m'intimide un petit peu.
Ça va bien aller. Aujourd'hui, on va regarder justement tes moments marquants, tes révélations, tes rencontres, les moments clés de ta vie. Puis on va commencer par le commencement. Donc, tu es née en 1981 à Repentigny, d'une famille aimante, en fait, de parents aimants et épicuriens. Tu as une grande sœur qui, aujourd'hui, travaille dans la francisation pour les réfugiés ou pour les immigrants. Ta mère est notaire, puis elle a eu son propre bureau, donc elle-même entrepreneur. Puis ton père, lui, s'est lancé dans l'immobilier à un moment donné dans sa carrière, puis a fondé Prével. Ce que je comprends, c'est que ton enfance est bien déroulée. Hein? Vraiment, là.
J'ai été choyée.
Choyée. Mais il faut que tu m'expliques alors pourquoi, à l'adolescence, tu as senti une rébellion en toi.
J'ai été une adolescente très difficile. J'avais un problème avec l'autorité. J'aimais pas ça me faire dire quoi faire. Je contestais beaucoup. J'avais ma vision. Je pensais que je connaissais tout. Puis aussi, j'avais une insouciance par rapport à plein de choses que... je prenais ce qui m'intéressait de mes parents. Donc, le côté épicurien, j'y croyais beaucoup. Donc, la vie, c'était faite pour avoir du fun. Puis ce qui me procurait pas du plaisir, ben j'avais pas envie de le faire. Là. Puis je me cherchais aussi beaucoup à travers tout ça. J'étais assez influençable.
Comment t'as passé à travers cette période-là?
Ma mère m'a probablement portée à bout de bras sans que je m'en rende trop compte. Là. Elle était toujours là pour garder le contact. Puis je peux dire que je l'envoyais chier sur une base régulière. Là. Je m'en excuse. Mais elle m'a supportée à travers tout ça. Je faisais énormément de sport. Je jouais, c'est difficile à croire aujourd'hui, là, mais je jouais au basketball de façon assez intense.
Est-ce que tu étais plus grande à ce moment-là?
Malheureusement pas. Puis j'en voulais profondément à ma sœur parce qu'elle est beaucoup plus grande que moi, qui elle n'était pas très sportive. Fait que je trouvais que la vie était donc injuste.
T'étais-tu bonne?
Pas tant. J'étais dans l'équipe, c'était bien important. Je benchais plus que j'étais sur le terrain, mais je réussissais à faire au moins 2-3 points dans le game. Fait que
ça t'a aidé à passer à travers?
Énormément. C'est l'esprit d'équipe, la structure. Fallait que j'aie des bonnes notes pour. C'était pas tant les bonnes notes parce que ça allait bien à l'école. Ce qui était plus difficile, c'était ma présence à l'école. J'ai déjà eu j'étais chanceuse, le directeur au secondaire avait appelé mon père parce qu'il rejoignait pas ma mère pour lui dire qu'il y avait un enjeu parce que j'avais manqué tous mes cours de religion, d'éthique, d'art plastique. Puis mon père m'avait appelé en me disant « T'aurais pu manquer un ou deux cours de maths, ça aurait été plus crédible. » J'étais pas très présente à l'école. Là. Je manquais beaucoup de cours, donc le basket me forçait à être plus présente.
Puis pourtant, t'as fait quand même pas mal d'études. Quand est-ce que c'est devenu sérieux pour toi, les études?
Le cégep. J'ai eu la chance de faire le bac international ça ressemble un peu, aux cours classiques dont mes parents m'ont énormément parlé, qui est une formation plus générale que très poussée. Et c'était, j'allais à l'Assomption, au cégep de l'Assomption, et c'était un nouveau programme, donc on était 3 dans le programme. Et j'ai eu la chance d'avoir un jeune prof d'histoire. On était son premier cours qu'il donnait. Il était passionné, il était prêt à répondre à toutes nos questions et il m'a énormément poussé. Il n'était jamais satisfait de ce que je produisais. Il fallait écrire beaucoup de papiers, de mémoires, tout ça. Il m'a énormément confrontée à ce que j'étais capable de faire. Puis ça a été une révélation pour moi.
Qu'est-ce que ça a créé chez toi?
C'était la première fois que j'étais fière de travailler fort. J'avais du plaisir à travailler fort, à me dépasser. Puis j'y voyais une grande valorisation. J'y voyais beaucoup de plaisir, ce qui était très contradictoire avec ma notion de moi-même, je dirais.
Mmh. Puis ça t'a tellement influencé que tu es allée faire un bac en histoire. Puis tu l'as fait, tu l'as pas fait à Montréal?
Non. Je l'ai faite à UBC.
Mm-hmm.
Ça, c'est plus par amour que je suis allée sur la côte ouest. Je sortais avec un New Yorkais qui faisait sa maîtrise à Stanford. Fait que c'était comme le plus proche que j'étais capable de me rapprocher. Fait que...
Puis tu as fini à Berkeley?
Oui.
Donc, c'était pour te rapprocher aussi, j'imagine? Ouais. OK.
Ça a duré 5 ans.
Wow! Est-ce qu'il jouait au frisbee, lui?
Bien, c'est lui qui m'a gentiment suggéré d'essayer ça. Et j'ai mordu là-dedans. En fait, je ne jouais plus au basket. J'ai joué au cégep quand même, mais je ne jouais plus quand je suis rendue à l'université. J'ai commencé à jouer au ultimate frisbee. Et ça a été mon deuxième sport que j'ai...
T'étais-tu meilleure?
Un peu. Non, mais en fait, je réussis à faire les grosses équipes. Fait que j'ai fait l'équipe de Montréal. On s'est rendu au championnat mondial. On a représenté le Canada à plusieurs reprises. Mais dans l'équipe, j'étais pas la meilleure. Mais j'étais dans l'équipe. Fait que,
c'était quoi ton rôle dans l'équipe?
De courir bien, bien vite. Puis puis d'attraper le frisbee dans la zone des buts. Là, c'est, le frisbee, c'est comme le football américain. Il faut faire comme des touchdowns.
Puis là, tu étudies en histoire, c'est quoi ton plan, tu sais? Où est-ce que tu te diriges avec ça?
L'intention, c'est de faire une maîtrise en études internationales, d'aller travailler pour des grandes organisations internationales, faire de l'aide humanitaire, sauver le monde.
Mais tu décides de t'accrocher les pieds dans l'entreprise familiale. Pourquoi?
En fait, je suis à UBC, je suis dans l'Ouest et je m'ennuie de ma gang d'amis de Montréal. Donc, j'essaie de me trouver une raison de revenir à Montréal avant de repartir pour faire la maîtrise. Et mon père me suggère, très candidement, j'imagine, de venir donner un coup de main sur un chantier. J'avais travaillé mes étés sur les chantiers. J'avais beaucoup aimé ça. Et de faire la transition. C'est une résidence pour personnes âgées. Donc, c'était la fin du chantier, l'arrivée des nouveaux résidents. Puis de venir donner un coup de main. Et ça a été une job formidable parce que c'était dans l'action. Ça me changeait beaucoup de l'histoire qui était très, très intellectuelle. Puis tu posais des questions sur la guerre froide de tel commentaire diplomatique. Là, c'est le monsieur du 416, il n'y avait pas d'eau chaude. Fait que... Mais c'était très satisfaisant d'aller l'aider puis de trouver sa solution parce que le diplomate, je faisais pas grand-chose pour lui, mais le monsieur, quand j'y donnais son eau chaude, il était vraiment content puis j'avais l'impression.
Qu'est-ce que Laurence, jeune vingtaine, se disait là, parce qu'elle venait d'étudier en histoire, elle s'en allait faire des études en études internationales, tu travaillais dans la résidence pour personnes âgées, ton père avait une entreprise... dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu disais, là? Tu commençais-tu à être un peu torturée dans tout ça?
Bien, pour moi, il était question ni de près ni de loin d'un jour travailler dans l'entreprise familiale. Okay. C'était pas... mes parents m'ont jamais encouragée en ce sens-là. Puis je dirais même qu'ils m'ont un peu découragée en disant, bon, mon père s'aligne, c'était la démographie est négative à Montréal. L'habitation, c'est l'augmentation de la démographie. Donc, c'est probablement pas une bonne voie d'avenir. C'est une conversation qu'on n'a pas eue puis que je pense qu'on n'aura jamais parce que j'aime croire en sa candeur. Mais je dirais que ça m'a permis plus tard, vraiment pas à ce moment-là, mais plus tard de faire le choix de l'entreprise familiale, ce qui est un grand privilège plutôt que d'avoir été destinée toute ma vie à faire ça. Mais à ce moment-là, J'avais aucun intérêt, ça ne me traversait même pas l'esprit, c'est même pas dans une possibilité lointaine.
Mais pourtant, à un moment donné, après quelques années à travailler dans l'entreprise, tu ne vas pas faire des études internationales, ni là, ni en journalisme que tu avais
envisagé. J'avais commencé un certificat en journalisme. En fait, j'avais trois choix, parce que tu sais, c'était tout le temps... je vais faire ma maîtrise l'année prochaine, je vais m'inscrire. Puis là, ben, j'avais fini le chantier de la résidence pour personnes âgées. Je travaillais au service après-vente. Après ça, je travaillais aux ventes. Puis c'était tout le temps l'année prochaine. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je pose action. Donc, j'hésitais entre le travail social, le journalisme. Puis là, soudainement, était apparu dans mon radar le MBA, non pas parce que je voulais m'en aller dans l'entreprise familiale, mais parce que un bon ami m'avait dit... Si tu fais ton MBA, tu peux tout faire après. Mais là, si tu vas en travail social ou en journaliste, ça va être plus pointu. Fait que c'était mon non-choix. J'avais pas besoin de choisir. Fait que je me suis dit, je vais aller faire mon MBA, puis je verrai après.
Qu'est-ce qui s'est passé au MBA? Est-ce que c'est là où tu as eu une révélation par rapport à l'entreprise familiale?
Pas par rapport à l'entreprise familiale, toujours pas. Mais j'ai eu une révélation par rapport au monde des affaires. Je dois avouer que j'étais très de gauche, je dirais de façon assez inconséquente, assez anticapitaliste. Et j'avais beaucoup de préjugés sur le monde des affaires. Fait que je rentrais avec mon petit côté rebelle au HEC en me disant hey, « ça va être toute une gang de... » j'ai été...
T'étais encore comme ça, là. T'étais encore arrogante, là, à ce moment-là.
Oui. Là, je me dis encore aujourd'hui, il me semble que je suis un peu moins. Mais à ce moment-là, je me rends pas compte que c'est de l'arrogance, c'est de la conviction profonde. Je découvre des gens extraordinaires qui sont pas du tout ce que j'imaginais. Et ce que je découvre aussi, le HEC, le MBA, c'était intensif pendant un an. Et je découvre que c'est super compétitif. Mais le fun parce que c'est des équipes, tu as des études de cas, tu es en compétition. Et là, je suis quand même assez compétitive comme personne. Et le jeu a embarqué, puis j'ai vu le plaisir qu'il y avait à trouver la solution, la façon de naviguer pour trouver la meilleure solution. Puis il faut que tu convainques tes collègues, puis que tu gagnes contre les autres équipes. Fait que ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai travaillé très, très fort au MBA et ça a été une grande satisfaction.
Elle se rapproche doucement et sûrement du monde des affaires et de Prével. Un déclic s'en vient et vous verrez, elle saura tout réconcilier.
L'immobilier, à quel moment c'est devenu acceptable et pour quelles raisons c'est devenu acceptable aux yeux de toi, jeune idéaliste?
Ça s'est fait très progressivement. D'abord, à un moment donné, j'ai arrêté de trouver que c'était méchant des condos. Parce que j'aimais beaucoup nos vendeurs, puis j'avais plein de conversations avec eux, puis j'ai travaillé aux ventes, puis je voyais que les gens, on répondait vraiment à quelque chose de super important pour eux. Fait que ça a changé ma perception. Après ça, on construisait des bouts de ville. C'est extraordinaire d'avoir une influence, de bâtir quelque chose qui va rester peut-être pendant une centaine d'années. Soudainement, je voyais que c'était possible d'avoir un impact positif. Fait que ce déclic-là, tranquillement, pas vite. Puis j'avais une gang extraordinaire. Il y a vraiment... Puis j'ai jamais si bien mis le doigt dessus pour comprendre le c'est quoi exactement qui fait le secret de la sauce. Mais il y a un esprit très, très authentique, très... familiale, qui nous rassemble, qui est au cœur, un peu à l'image de ce que mon père est aussi, très épicurien. Il y a beaucoup de vin chez Prével, il y a beaucoup de conversations. Puis il y avait beaucoup aussi quelque chose où je me retrouvais le droit d'être en désaccord. Des fois, le ton montait, puis il y a des points qui se donnaient sur la table, mais on le faisait. Tout le monde avait des convictions. Pour le client, c'était mieux ça. Non, pour le chantier, c'est mieux ça. Puis on arrivait à des bonnes solutions en étant en désaccord.
Là, tu as travaillé donc dans plusieurs secteurs de l'entreprise, tu as été exposé à toutes sortes de situations, puis à un moment donné, c'est devenu une réalité, là. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as dit à ton père « Hey, je veux travailler ici, moi ».
Je me souviens du moment où, là, c'est comme dans un dessin animé où la lumière s'est éclairée. J'étais dans un souper d'amis, puis il y a un de mes amis qui m'a dit « pourquoi tu ne resterais pas chez Prével, là? Tu pourrais éventuellement. Puis pour la, je me le suis probablement fait dire des centaines de fois, mais c'est la première fois que je l'entendais puis que ça résonnait en moi. Puis j'avais l'habitude de manger toutes les semaines avec mon père. C'était notre rituel, un lunch de plusieurs heures. Et on refaisait le monde, on jasait de l'entreprise, on jasait de lui. J'ai eu le privilège de le connaître sur, je veux dire, son approche en affaires, là où il était rendu dans sa vie, il commençait à vouloir ralentir. Puis à un moment donné, ça c'est comme à partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, j'ai commencé à le partager avec lui, mais faut se rappeler que je me disais, je suis pas une fille de construction, je suis pas une fille de légal, parce que c'est quand même important, je suis pas une financière d'aucune façon. Qu'est-ce que je vais bien faire? Puis, ben, on s'est fait accompagner par une firme de relève, puis j'ai été évaluée, puis il y avait... mon père avait un partenaire depuis plusieurs années, fait qu'on on a tout conjugué ça, puis ça s'est fait.
Mais oui, parce qu'en 2018, tu deviens coprésidente. Puis ça, ça concorde, en fait, avec le 40e anniversaire de l'entreprise. Puis en 2021, tu deviens présidente. Donc, Jonathan Singer, qui était ton qui était ton associé à ce moment-là, te laisse la place, la présidence. Comment tu expliques, en fait, la réussite du transfert familial, du transfert d'entreprise vers toi?
On s'est concentré sur les humains, puis pas sur la fiscalité. Mais on a été vraiment bien accompagnés. On a mis sur la table les peurs de chacun, les appréhensions de chacun. On a défait les nœuds un à un, puis il y en a eu plein d'autres qui sont venus en cours de route, mais on était accompagnés, fait qu'on avait, je veux dire, de la thérapie de couple quand c'était un peu plus difficile, mais on se parlait, puis on avait quelqu'un qui nous accompagnait dans ces discussions-là. Donc, ça a été, ça s'est fait tout en douceur.
Puis c'est quoi tes défis, puis c'était quoi tes défis surtout à l'époque comme successeur de ton père?
Bien, initialement, c'est que mon père était le visage de l'entreprise. C'était une référence en habitation, en immobilier à Montréal. Et je sais pas si j'étais allée dans deux événements corporatifs de ma vie à ce moment-là. C'était tout à découvrir. Puis je me disais, il y a personne qui va me faire confiance. Fait que c'était de bâtir... Je veux dire, d'abord, ma confiance, mais à cette époque-là, je pensais que c'était la confiance des autres à mon égard.
Puis quand tu te ramènes à cette époque-là, comment tu as fait ça?
J'ai parlé de ce que je connaissais, des petites situations pour commencer, là, dans des rencontres d'affaires. C'était moi qui, soudainement, prenais davantage la parole. Puis j'ai réalisé que je connaissais vraiment... l'immobilier, je connaissais vraiment l'habitation, je connaissais le métier beaucoup plus que je pensais.
Oui, parce que tu as travaillé avec lui 15 ans avant de devenir coprésidente.
Tout à fait. Puis j'ai appris énormément. Tu sais, quand j'étais plus jeune, il me traînait dans des réunions d'architectes où il me disait « Tu peux venir, mais tu parles pas, là. » Puis là, c'était dur. Mais j'ai appris. Puis c'est ça que je trouve... on parlait de télétravail. J'ai appris par osmose, j'ai appris par mimétisme, j'ai appris en regardant les autres. J'ai tellement appris à juste suivre puis à me taire.
Ça a été difficile d'arriver.
Ça a été terriblement difficile.
Ouais.
Non, mais ça a été difficile de parce que j'ai des opinions sur tout, puis là, je devais rien dire. Ça a été. C'est difficile d'être assis dans une rencontre où t'as l'impression d'être une plante verte, puis tu penses que tout le monde te regarde être une plante verte, alors que tout le monde s'en fout de toi. C'est vraiment comment tu te sens, toi, que t'amplifies grandement. Fait que ça, c'est plus jeune. J'ai trouvé... Bien, il y a plein de moments que j'ai trouvé difficiles. J'en trouve encore plein de moments difficiles. Je dirais que ça doit faire probablement 5 ou 6 ans que je suis constamment en dehors de ma zone de confort.
Puis c'est... Qu'est-ce qui t'aide dans ces moments-là?
plein de choses. Les gens qui m'entourent, j'ai des gens exceptionnels autour de moi, que ce soit des collaborateurs, des gens à l'interne. Mon père est extraordinaire. Jonathan a été extraordinaire. On s'attend de ça d'un père, mais on s'attend moins de ça du partenaire du père. Encore aujourd'hui, les deux m'accompagnent. Je rencontre des nouveaux partenaires. Les gens ont envie de partager leur savoir, puis pas toujours, mais en général, je sens que les gens ont envie de voir que Prévelle se poursuit, que Prévelle réussit. Donc,
on va parler un petit peu plus de ta vie personnelle. Prévelle a une centaine d'employés. Toi, tu as 3 enfants à la maison, parce qu'après l'Américain, il y a eu un Québécois, toujours dans le frisbee, si j'ai bien compris. Vous avez fait 3 enfants, puis je ne sais pas si tu y avais pensé, là, mais tu as fait ça à partir de 30 ans, 1 par 2 ans. OK? Puis là, moi, je prépare mon entrevue comme il faut. Là. Puis là, j'ai mis les années, j'ai aligné tout ça. Aujourd'hui, tu as 41 ans. Puis je me suis dit, oh my God, les dernières années ont été tellement intenses, ça n'a aucun bon sens, parce que, dans le fond, il y a 5 ans, tu avais 36 ans. Puis si vous me suivez, il y a 5 ans, tu en avais un de 6, tu en avais un de 4, puis t'en avais un de 2. Je devrais dire une de 6, parce que tu commences avec une fille à 30 ans, un garçon à 32, un autre garçon à 34. Et là, quand t'arrives à 36 ans, tu prends la coprésidence. Excusez-moi, mais elle décide d'écrire un livre aussi. OK, dis-moi pas que tout était beau, là. C'est pas vrai, là.
Non, c'est la période la plus difficile que j'ai eue dans ma vie. Le 2-4-6, puis j'en parle régulièrement avec mon chum, maintenant qu'on est sortis de cette période-là, qu'on a survécu à cette période-là, c'était terrible. J'ai pas d'autres mots. On a déménagé dans cette période-là.
En plus.
Mon chum s'était cassé le pied. J'ai une scène là, où nos boîtes sont pas encore défaites. Il y a le pied cassé. Le bébé, il faut le prendre dans nos bras souvent parce que on est dans une nouvelle maison. Et les enfants ont eu des poux. Le travail, tout ça. Moi aussi, j'en ai eu. et là, je m'effondre dans la cuisine là, de dire « je suis pas capable de gérer ça, c'est vraiment trop... » Puis ben, mon chum qui me regarde gentiment en disant « moi, avec, j'en ai plein bottine, fait que... »
Qu'est-ce que t'as fait?
Ben, j'ai braillé beaucoup. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Tu continues. Y a pas, on ne peut pas les retourner, ces petites bêtes-là. Fait que...
Mais c'était voulu, là.
Les enfants, j'en voulais 4. J'en voulais 4.
On a arrêté?
On a arrêté. Puis aujourd'hui, je pense que c'était une sage décision de ne pas avoir eu le 4e. Mais j'ai toujours aimé ça, les gangs, le monde à la maison. Puis, fait que, tu sais, j'ai cette image-là dans ma tête là, de toutes les amies des enfants, puis les chums, les blondes. Ça va être incroyable. Mais j'ai comme oublié le bout du 2, 4, 6. Là.
Puis, ce bout-là ou cette journée-là, là, cette image-là que tu as en tête, là, qu'est-ce qui a changé après ça? Parce que j'imagine que tu n'as pas juste pu continuer comme si de rien n'était, là. Qu'est-ce que tu as changé?
Ça a été un 2 ans difficile. Je veux dire, c'était une journée à la fois. Je faisais, tu sais, toutes les choses qu'il faut faire, là.
Donc, de 36 à 38, là, tes 2 premières années de coprésidence.
Mais oui, puis il y a eu plein de beaux moments par ailleurs. C'est pour ça que, tu sais, dans ma famille puis dans mon couple, c'est extraordinaire, des enfants, puis d'aucune façon, je voudrais décourager les gens qui veulent une grande famille. C'est formidable. Fait qu'à travers tout ça, t'as des super bons moments puis on aime beaucoup le vin aussi. Chez nous, on est épicurier, fait que ça aussi, ça aide beaucoup. Mais le sport, les amis, la job était un exutoire aussi de sentir... c'est des périodes où tu étais plus valorisé au travail. C'était plus facile d'avoir une étoile dans ton collant dans ton cahier qu'à la maison. Là, la reconnaissance, la valorisation était plus difficile.
Fait que ça tombait bien?
Oui, ben
la coprésidence tombait bien?
J'imagine.
C'était une bouffée d'air frais dans ta vie?
il y avait des défis là aussi, mais ça faisait du bien aussi. Ça a été peut-être un...
Puis c'est quoi tes trucs que tu aurais à donner à quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là?
Qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut juste baisser la tête puis avancer parce que...
Les années vont passer, les journées vont passer. Ben,
mon chum était très sage. Il me disait, tu vas voir, quand le plus jeune va avoir 5 ans, on va être ailleurs. Mais moi, je ne vis pas comme ça. Je vis très, très au quotidien. Puis je me disais, mais c'est bien trop loin, 5 ans. On ne se rendra pas là. Mais tu sais, fait que j'étais beaucoup... je cherchais les moments de plaisir. Là.
Et un de ses plaisirs fut d'écrire un livre. Car écrire un livre, c'est difficile. Et on le sait maintenant, Laurence aime les choses difficiles.
Mais ça, c'est un exutoire. Pour moi, l'écriture, okay. C'est un privilège. C'est comme un petit moment bonbon. Ça, c'est des moments, je me levais, je mettais mon cadran à 5 heures le matin, puis je partais au bureau rédiger jusqu'à à peu près 10-11 heures le matin. Et je revenais à la maison, mais je me réveillais avant mon cadran tellement que j'étais excitée d'y aller. Fait que ça a été une grande bouffée d'air frais. Et c'est là où je dis, si j'en reviens un peu à mon prof d'histoire de Cégep, de travailler puis de donner le meilleur de soi, c'est très, très c'est nourrissant.
On vient quand même dans le contexte, là, hein? On l'a décrit. Puis tu décides quand même d'écrire un livre. Moi, je veux savoir c'est quoi l'urgence qui t'habitait à ce moment-là. Parce que le livre s'appelle « Bâtir Montréal à la table 45 ». Donc, c'est une belle photo de couverture. Ton père et toi, vous êtes au restaurant Graziella. Petite publicité pour une de nos braves, d'ailleurs. Graziella Battista. Et vous mangez chez Graziella à toutes les semaines à la table 45. Et là, tu écris un livre là-dessus sur ta vision du développement immobilier. C'était quoi l'urgence?
Ben, il prenait sa retraite là.
OK.
J'avais pas le choix.
OK. C'était ça.
Mais c'était aussi une des raisons pour laquelle j'avais jamais considéré l'entreprise familiale. Je voulais pas choisir le chemin de la facilité. Tu sais, je m'étais fait dire toute ma vie que je l'avais eu facile. Fait que j'avais pas envie de... Je dirais qu'aujourd'hui, je trouve pas que c'est le choix de la facilité. Et le livre était une occasion pour moi. L'écriture, c'est de prendre du recul, c'est avoir de la perspective. Donc, c'était de prendre ce pas de recul-là, de regarder les 40 années qui se sont passées, ce que mon père avait bâti, puis un peu de marquer un point, je ne veux pas dire un point final, une virgule, on va dire, ou un trois petits points, puis après ça, de pouvoir écrire autre chose.
C'est le sens de l'histoire. Hein?
Peut-être, je ne l'ai pas analysé comme ça.
Tu as eu 20 belles années, hein? Ça fait 20 ans. 20 belles années.
L'année prochaine.
Dans le monde immobilier. Hein? C'est des belles années, là. Sauf que depuis un an, tu as des vents de face. Je veux savoir comment tu vis ça.
Ben, comme les deux. La COVID non plus n'a pas été facile. On pensait que ça allait être terrible. Finalement, le monde ne s'est pas écroulé, mais on a pensé un bon moment que le monde allait s'écrouler. La relève, c'est pas facile non plus parce que on change des choses. C'est la gestion du changement, tout ça. Donc, travailler avec les équipes, bâtir une cohésion, ça a été des défis constants. C'est un défi de plus. C'est une journée à la fois.
Mais il y en a quand même beaucoup, là.
Je suis d'accord.
OK. Mais comment tu envisages le développement immobilier dans le contexte actuel?
Mais dans le
Qu'est-ce que ça a changé, en fait, pour toi?
Il faut beaucoup plus de prudence. Il faut prendre son temps. Puis quand on est pressé, j'ai appris qu'il faut prendre son temps. J'ai un tempérament assez impatient, donc c'est un apprentissage que je me répète sur une base régulière. Il faut quand même croire puis avoir de la vision que ça sera pas comme ça pour toujours. Il faut se ramener à des fondamentaux. Montréal est une ville exceptionnelle. Puis si on le prend plus large, le Canada est un pays exceptionnel pour attirer l'immigration pour plein de raisons. Le Québec pour sa sécurité, pour ses ressources naturelles. C'est quand on se compare là, ce que les Européens vivent, ce que les Américains vivent. Le Canada est relativement, puis le Québec encore plus, relativement épargné en termes de développement durable. Donc, je pense qu'on va être très, très attrayant d'un point de vue immigration. Donc, la démographie sera non pas négative, mais positive. Et on a besoin d'habitation. Puis moi, mon métier, c'est de faire de l'habitation. Donc, ça va peut-être être l'habitation différente. Peut-être qu'on va travailler davantage en partenariat ou que ce soit avec le gouvernement ou avec du communautaire. Mais je suis convaincue que l'habitation demeure excessivement pertinente.
Tu avais dit à une de tes employées, tu racontes ça, je pense, dans le livre, si je ne me trompe pas, que tu vas être là au moins 5 ans. Comme... Moi, je t'ai convoquée en entrevue pour savoir, 5 ans plus tard, si tu vas rester présidente de Prévert.
Est-ce que je reste? Mais je marche par 5 ans, c'est moins épeurant, là, parce que quand... Moi, ce qui m'a le plus, immobilisée dans ma vingtaine, c'était de penser qu'il fallait que je fasse un choix pour le restant de mes jours. Ça, c'est paralysant parce que se tromper pour le restant de tes jours, c'est long en maudit. Alors que pour 5 ans, c'est correct. Je suis capable de... Si jamais ça me plaît vraiment pas, là, je vais être capable d'arriver au bout de mon 5 ans. Et c'est aussi un peu comme avec les enfants. Tu baisses la tête puis t'attends que ça passe. Je me disais, tu sais, il va y avoir des moments difficiles puis il faut pas qu'à chaque fois je me re-questionne puis que je réouvre toute la porte des possibilités. Donc, le 5 ans, c'était en décembre 2022. Et je trouve que c'est vraiment un point charnière parce que l'équipe est là, l'équipe est formée. Puis là, c'est juste de voir l'envolée de ça. Je suis très excitée de voir ce qu'on va devenir.
Qu'est-ce que Préville apporte sur la scène montréalaise ou ailleurs que les autres n'apportent pas?
Je pense qu'on prend une voix un peu différente. Moi, quand j'ai décidé que j'étais prête à m'engager, là, j'avais décidé que c'était un beau métier. C'est pas comme ça qu'on porterait les promoteurs immobiliers. Et j'avais envie de changer cette perception-là. C'est un peu un grand défi aussi, mais c'est vraiment une belle contribution qu'on a et on n'en parle jamais. Donc, je pense que Prévert prend une place pour démontrer que c'est un beau métier puis qu'on fait des bonnes choses.
Ça marche en passant.
C'est le plus beau compliment qu'on peut me faire.
Mais dis-moi concrètement, ça veut dire quoi? Tu sais, parle-moi d'un projet, par exemple.
Ça, je vais vous parler d'Esplanade Quartier.
Ben oui, parle-nous d'Esplanade Quartier.
Qui est un projet que j'adore, qui est d'ailleurs mon premier projet que j'ai vraiment chouchouté de A à Z. Donc, tu sais, on a dit non 8 fois à ce terrain-là avant de finalement commencer à le négocier pendant 1 an, puis après ça, le changement de zonage, etc., etc. C'est un projet, c'est une chance inouïe d'avoir 400 000 pieds carrés de terrain à côté du métro Papineau, au bout de la rue Sainte-Catherine, dans un quartier qui est un peu déstructuré, qui est centre-sud, mais qui a une âme, une chaleur. Il y a le village juste à côté. Il y a plein d'éléments super intéressants. Et on a l'occasion de créer un petit bout de ville, parce que c'est ça, on crée des rues, on crée un grand parc, la grosseur de la place des festivals, on crée une petite placette, des petits commerces, on fait du bureau, on a le Y des femmes qui s'en vient là, on a du logement social, on fait du condo, du locatif, on travaille quelque chose avec la Ville de Montréal pour faire de l'accès à la propriété, on travaille avec Maire avec pouvoir pour essayer de les amener sur le site, je veux dire, on s'est dit, on va essayer à l'intérieur de ce 400 000 pieds carrés de terrain-là, de mettre tous les éléments de ce qu'on rêve d'une ville, de sa mixité, d'avoir de la place pour tout le monde. Et on a toujours une image, un point d'inspiration. Bon, ça, c'est un mot qui est un peu galvaudé, là, mais le vivre ensemble, on s'est donné une image qui était un parvis d'église. Non pas pour la religion, là, mais pour ce que ça représente. Sur un parvis d'église, tout le monde y va, tout le monde s'y retrouve, tout le monde placote avec tout le monde. C'est un point de rassemblement. Les gens interagissent ensemble. c'est ça un peu que ça a été l'ADN de Prévelle de toujours, de créer des lieux qui rassemblent. On a, il y a longtemps, créé, je pense, on était parmi les premiers à créer des espaces communs dans les unités d'habitation pour que les gens aient l'occasion de connaître leurs voisins, de développer un sentiment d'appartenance. Donc, je pense que c'est en créant des choses comme ça, en faisant bien les choses, puis en ayant le goût de le faire pour les bonnes raisons, qu'on peut vraiment faire une différence.
C'est très clair. Puis, peux-tu me dire la date, tu sais, le début de ce projet-là? Ça remonte à quand?
Bien, on a acheté le terrain en janvier 2019, mais on l'a négocié pendant un an avant ça. Donc,
puis tu l'as refusé 8 fois avant?
Avant.
Mettons, quoi, 2017, quelque chose comme ça?
Ah, les premières fois qu'on l'a regardé, ce terrain-là est en vente depuis belle lurette. Je dirais probablement 2015. Là.
OK. Donc, la première idée, 2015?
Bien, il n'y avait pas d'idée, c'était non.
Mais c'était non?
C'était non.
OK. C'était non. Donc, ton premier contact avec ce terrain-là, puis en 2018?
18, là, on commence à le regarder sérieusement. Puis,
ça nous amène quand, une fois que c'est terminé, ce projet-là?
Il nous reste probablement 6 ans.
6 ans. Donc, 2018 plus... OK. Donc, 6 ans, ça fait 11 ans. Comment on tient 11 ans?
Une journée à la fois. mais c'est qu'on a une vision. Moi, je le vois à Esplanade. Je dois avouer que novembre 2018, quand on sait qu'on va signer, on va être propriétaire du terrain en janvier 2019, puis c'était une journée pas aussi moche qu'aujourd'hui, mais quand même pas trop belle. Et je me souviens d'avoir... c'était pas des bons papillons, là. Je me disais, hé, Pelaye, qu'est-ce qu'on a fait là? On a perdu la tête complètement. C'était gigantesque, c'était tout gris. Mais on a travaillé avec nos architectes, avec beaucoup de collaborateurs. Puis on est arrivé avec une image. Puis c'est fort, les images. Les mots, c'est très important. Mais une image à laquelle tu peux te rattacher, qui est notre image phare d'Esplanade, où on voit le site en entier. Puis c'est l'image qui est étampée.
Ouais. Qui te raccroche.
Mais puis c'est les petites victoires qu'on a au fur et à mesure. Là on a livré, on a fait une image du premier bloc. Puis là, c'est construit. C'est identique quand on le regarde, là, l'image avec nos petites volumétries de triplex, puis la tour en arrière, puis tout ça. C'est vraiment réel. Il y a des gens qui habitent dedans. C'est extraordinaire.
À quel point c'est important pour toi que ça ressemble vraiment à l'image à la fin?
C'est fondamental. C'est une de nos, de nos tatouages.
Mais avec toutes les difficultés qu'il y a sur les taux d'intérêt, les coûts de construction aujourd'hui,
tu
vas y arriver?
Tu livres ce que tu as promis au client. C'est fondamental. Je pense que c'est ce qui a fait la réputation de Prévelle dans les rencontres où le vendeur puis notre directeur de construction tapait sa table. Là, c'est ça que j'ai vendu au client. Mais ça coûte trop cher. On va trouver. Puis là, on arrive à un compromis parce que c'est de trouver là, ce qui est meilleur pour le projet. Parce que
puis comment ça se passe en dedans de toi, tous les jours? Face à l'épreuve. Parce que moi, j'en ai des projets, là. Je fais de la communication, si vous le savez pas. Mais moi, j'appelle ça de la pâte à modeler, là. Je vais la changer, ma pâte à modeler, tu comprends? Toi, tu travailles avec des choses très, très concrètes, des murs, des fondations, tu sais. Je veux dire, si ça a été fait à 2 centimètres à côté, tout s'effondre. Tu sais, je me dis, comment elle fait pour vivre avec le stress qui est relié à la création d'un projet pareil sur une période aussi longue?
Je le réfléchis pas comme ça, parce que sinon, je serais aussi effrayée que toi. Mais c'est vraiment, c'est plein de petits gestes et de petites décisions où on en prend une à la fois, puis on le met dans le portrait global, puis on prend la meilleure décision au moment, avec l'information qu'on a, puis on se trompe des fois, puis ça nous est déjà arrivé de démolir du béton qu'on avait, qu'on venait de couler. Mais on avance avec... c'est sûr qu'il faut avoir une grande confiance en nos professionnels, il faut avoir une grande confiance en notre équipe, puis c'est une journée à la fois.
Comment tu vois l'avenir de l'immobilier avec tous les changements climatiques?
Je pense que c'est plus pertinent que jamais de construire justement des milieux de vie complets. Le quartier de 15 minutes et ce que je rêve mais c'est même pas pour... C'est fantastique pour le développement durable, mais c'est ça qu'on aime d'une ville. Moi, j'aime les petits quartiers qu'on peut marcher. J'aime les petits commerces de proximité. J'aime pouvoir descendre directement, pouvoir faire tout à pied, prendre mon vélo pour aller un peu plus loin, d'avoir le transport en commun. Donc, tant mieux que ça réponde au développement durable. C'est formidable parce que là, il y a encore plus de gens qui vont se rallier. Mais c'est un mode de vie exceptionnel, l'urbanité. Moi, je suis une grande amoureuse de l'urbanité.
Puis tu continues d'écrire, là, dans la presse.
Toujours.
Puis tu prends des positions. Puis tu as le courage de prendre des positions sur des sujets. Souvent, wow! C'est cool! Comment tu te sens par rapport à cette prise de position-là, ces prises de position-là, comment tu vis avec ça?
C'est très difficile. J'adore l'écrire. Ça, c'est mon moment préféré. Quand je sais que ça va être vraiment publié, là, j'ai le goût de me cacher en dessous de la table pendant les 3-4 prochains jours, le temps que les gens l'oublient. Puis, que...
Mais tu ne peux plus faire la plante verte, là.
C'est non, pas possible. Là, c'est plus difficile. Mais en même temps, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de convictions que j'ai envie de partager, je trouve tellement que c'est important que des joueurs du monde corporatif prennent la parole parce que souvent, on n'est pas représenté dans le débat public parce qu'il n'y a pas tant de gens du monde du milieu des affaires qui prennent la parole. Donc, je pense que c'est un devoir, c'est comme une responsabilité pour moi.
Es-tu encore de gauche?
Oui. Oui, mais c'est quoi être de gauche ou de droite, là? C'est après ça les définitions. Moi, j'ai envie d'être pour le bien commun. Après ça, je vous laisse déterminer ça appartient à quel spectre de...
Puis toi, tu t'en vas où, Laurence? Puis sur quoi tu travailles actuellement? Pour toi?
Pour moi, j'ai envie d'avoir une équipe qui va... L'équipe est fondamentale pour moi. Donc, c'est ça, on est en train de bâtir ça. Je suis en train de vivre mon équipe. Je trouve que ça va être pendant des années. Fait que ça, c'est vraiment... Les gens, je trouve que c'est ça qui compte en bout de ligne. C'est les relations humaines qu'on a. Puis c'est de voir aussi à travers tout ça mes enfants grandir, la relation avec mon chum qu'on a passé à travers un moment difficile. Je pense que c'est beau de réussir à passer à travers un moment difficile puis de se dire que tu sors grandi de ça puis tu sors plus fort.
Je suis curieuse de savoir, toi, personnellement, sur quoi tu travailles?
Je travaille sur moi, sur une base... Moi, je suis... Il y a plein de raisons d'être en vie, mais je pense qu'une d'entre elles, c'est de devenir une meilleure personne à tous les jours. Puis je trouve vraiment que je suis une meilleure personne que j'étais...
T'es plus indulgente.
Je suis plus indulgente. Je pense que je suis moins arrogante que je l'étais quand j'étais plus jeune. J'ai vraiment envie d'être une bonne personne.
Cool. T'as-tu envie de faire de la politique?
Pas partout.
T'es certaine?
J'ai aucun doute là-dessus. Je pense que là, je serais cachée en dessous de la table tout le temps.
Puis si t'étais France-Hélène Duranceau, là, notre ministre de responsable de l'habitation, qu'est-ce que tu ferais?
En fait, j'utiliserais tout l'écosystème. Puis c'est une bonne période pour être ministre de l'habitation. Parce que tous les yeux, c'est un sujet fondamental, tous les yeux sont rivés sur cette question-là. Toutes les villes à travers le monde vivent ces enjeux-là. Donc, c'est quand même une chance d'avoir tout ça entre les mains. Après ça, il faut bien entendu que les dollars suivent, parce qu'on peut pas, faire tant avec sans moyens, puis les besoins dans la société s'attirent de partout là. Mais moi je pense que c'est l'occasion de prendre une position très 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 forte, de dire c'est maintenant que c'est nécessaire d'investir massivement. C'est une responsabilité du gouvernement provincial d'investir en habitation, d'être le filet de la société. Je pense que il y a moyen de rallier les différents paliers, le fédéral, fédéral, le provincial, le municipal, les différents acteurs. C'est là-dessus, moi, de réussir à rassembler tous les acteurs autour de cet enjeu-là qui est fondamental et qui a des répercussions beaucoup plus grandes que juste de loger les gens. Ça a des répercussions sur l'itinérance, ça a des répercussions sur la santé, sur l'intégration des immigrants, sur l'éducation, sur l'échelle, la mobilité dans l'échelle sociale. Donc, c'est de réussir à vraiment mettre, les enjeux de chacun ou les agendas de chacun, puis de travailler ensemble sur un projet commun.
T'es sûre que tu vas pas faire de politique?
Convaincue.
OK. On passe au questionnaire brave. Laurence, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage?
Du sport. Des amis, beaucoup de gens qui... puis je dois avouer que j'ai développé ma petite routine du matin pour me mettre dans un bon état d'esprit pour commencer ma journée.
C'est quoi être brave pour toi?
C'est faire face. Faire face à ce qui est difficile. Avoir les conversations difficiles. Nommer les choses difficiles avec les employés, avec les partenaires. Pas balayer les choses en dessous du tapis.
Et qu'est-ce que tu dis pour t'encourager?
Que je suis une fille de défi, que je suis capable de faire des choses difficiles, puis que je suis même capable d'avoir du plaisir à le faire.
Puis à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
Quand j'ai pas été authentique.
Puis quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis?
Les immigrants.
Puis qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
Que c'est bien correct de ne pas savoir quoi faire de sa vie à 20 ans puis qu'on n'a pas besoin de décider pour le restant de nos jours.
Tu boucles la boucle? Merci, Laurence.
Merci.
Merci pour tout.
Je suis heureuse d'avoir convaincu Laurence de venir nous raconter sa vie alors qu'elle est en plein dedans. Après une adolescence insouciante, une jeune vingtaine anxieuse et une trentaine ultra intense, Laurence entame une quarantaine pleinement sur son X, avec des projets uniques qui lui ressemblent et qui, chacun à leur manière, changent, peut-être pas le monde, mais changent Montréal. Voilà, la boucle est bouclée, du moins pour le moment. Chers braves, vous devez, comme moi, avoir envie de voir la suite. Alors restons aux aguets. Merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.
Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.